qui nous embarque pour un voyage en Afrique de l'Ouest, au Mali, au pays des Dogons.
Bon, les Dogons sont des Grecs classiques. Hein. Ils redoutent le trop discours, le trop parler.
Rendez-vous avec un magnifique témoin de l'histoire des civilisations africaines et de leurs traditions, Germaine Dieterlin. Ce soir, à partir de 21h. France Inter.
La différence.
Et on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Ouais, je viens de recevoir un mail et franchement, c'est vraiment un renseignement généreux. Je ne sais pas qui est à l'origine de ça, mais c'est assez sympa. C'est un coup de gueule court et bref, où il est dit que cette année, pour ma déclaration fiscale, dans la rubrique « Personne à charge », j'ai décidé d'inscrire le nom des membres du gouvernement. Je trouve ça excellent. Ciao, viva, portez-vous bien.
DSK, tu viens pour les vacances. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
Et Daniel.
Bonjour Daniel, c'est Nadia, Nadia Azouk, voilà, je suis du côté de Pantin et puis depuis à peu près 8 jours, je suis du côté de Paris, dans un parc rue du Chemin de Fer où tu as des réfugiés tunisiens qui sont là entre 300 et 400, les chiffres fluctuent. Voilà, c'est une cata, il y a eu rafle, il y a eu arrestation. La communauté tunisienne s'est organisée pour apporter de l'aide, le minima alimentaire. On est vraiment face à une crise humanitaire. Je sais que tu étais à Lampedusa la semaine dernière, je sais que tu peux éventuellement venir sur place. Donc moi j'aimerais qu'on se mobilise tous. Bon, c'est clair, je suis au sein d'un parti Europe Écologie Les Verts, mais c'est pas ça qui doit faire qu'on doit tous se retenir. Voilà, moi j'alerte, je suis en colère en même temps, je suis indignée et j'aimerais qu'on soit plus nombreux le soir pour faire bouclier humain. Il y a eu des arrestations, comme je le disais, c'était dur la semaine dernière, on s'est débrouillé sur des hébergements. Là, ils sont sur un squat dans Paris, le lieu n'est pas salubre, il va falloir qu'on trouve des solutions. A priori, il y aurait des pistes, mais tout n'est pas très clair. Voilà, bougeons. C'est un peu un cri d'alerte. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on va droit dans le mur. Voilà, besoin d'aide. Donc, je vous attends nombreux. On est plusieurs. On reste tard. Donc, à très bientôt. Ciao.
Où est les bonnes âmes qui avaient créé un collectif de Lampedusa? Pourquoi vous n'avez pas créé un collectif en faveur des SDF? Ils ont faim, ils ont peur, ils ont froid, ils meurent dans la rue tous les hivers, sans que personne ne s'en émeuve, ou pas grand monde. Et là, il n'y a pas de collectif, c'est bizarre. Alors, pour information, il y a eu une révolution en Tunisie. Il y a un pays à construire, il y a des choses à faire. Pour tous ceux qui sont chômeurs, qui ne trouvent pas de débouchés en France et qui ont pourtant un savoir-faire, un petit capital, etc., essayez un petit peu d'aller clandestinement en Tunisie en vous disant, de toute façon, on rend service au pays, on lui reconstruit son économie. Essayez donc un petit peu de passer en douce la frontière en Tunisie. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'approuver qu'on traite de façon indigne des gens qui ont traversé la mer au péril de leur vie, mais je crois qu'il faudrait quand même une réflexion un petit peu plus profonde et un petit peu plus subtile des problèmes du monde pour essayer de les résoudre positivement au lieu de jouer sur l'émotionnel et de toujours partir bille en tête pour les grandes causes sans un minimum de réflexion. C'était mon petit coup de gueule, cela dit, vous pouvez me traiter de réac, ça m'est bien égal. Au revoir.
Oui, salut Daniel. Je viens d'entendre des gens là qui se plaignent parce que Ben Laden n'a pas eu droit à un procès, il n'y a pas de démocratie, tout ça, patati patata. Mais au fait, Ben Laden était-il démocrate et espérait-il lui aussi un procès? Quelle rigolade. Lui-même a-t-il fait un procès pour les 3000 personnes qu'il a désinguées à coups d'avion? Vous voulez peut-être aussi qu'on fasse une enquête pour savoir si le 11 septembre a bien eu lieu? Certes, la démocratie est un idéal. Le terrorisme fait-il partie intégrante de la démocratie? Vous avez une heure, après quoi je ramasse les copies. Allez, ciao, à bientôt, Daniel.
Je voulais répondre au monsieur qui disait que la démocratie avait été Ben Laden. Je partage cette opinion. Ce Ben Laden, il aurait dû avoir un procès. Jamais, s'il a été effectivement tué, il n'aurait dû être assassiné. Les choses me paraissent claires. Cependant, je ne crois pas que ce soit la démocratie qui assassine. Ce sont les gouvernants. Même si la démocratie est imparfaite, elle est calquée sur le modèle athénien, qui avait une société qui excluait les femmes, une société où il y avait des esclaves. Mais tout de même, la démocratie, ça a quand même été le lieu, et c'est encore le lieu, ça peut encore l'être, le lieu d'une assemblée où chacun peut parler. Je ne crois pas que ce soit la démocratie qui tue. Par contre, la démocratie, on la remet aux mains de gens qui sont des êtres humains bien imparfaits. Et c'est peut-être ça, davantage qu'il faudrait incriminer. Nos gouvernants avec leur ambition, avec leur orgueil démesuré, et surtout une sorte de corruption d'esprit, peut-être bien liée à l'exercice du pouvoir. Voilà, j'avais très envie de dire ça aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup pour toutes les émissions. À bientôt, au revoir.
Bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Christine de Nîmes. Je vous appelle pour laisser un petit message aux auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et des alentours. Ce soir, mercredi 4 mai, nous aurons bien notre repère de là-bas. Il se tiendra au bar Les Ramblins à partir de 19h. Bye bye.
Bonjour tous les AMG et bonjour Daniel. Eh bien, je viens d'écouter les informations de 17h sur Inter. Et je viens d'apprendre que Stéphane Hessel allait voter pour Nicolas Hulot. Voilà, je voulais laisser un message à Stéphane Hessel, dont j'ai adoré le livre « Je suis indigné ». Pas vous, c'est Nicolas de Beaugency.
Salut Mermet, salut les AMG. Le repère de Annecy se réunit jeudi soir à 19h avec une libre parole autour des sujets aussi variés que la béatification de Ben Laden, le mariage du pape et l'assassinat du prince William. Non, plus sérieusement, les AMG sont invités à apporter livres, cassettes et DVD pour une première expérience de grand partage gratuit et fraternel. Bien sûr, nous parlerons aussi et surtout de l'organisation du grand week-end du 15 mai au Glières avec la visite des autres repères et de Daniel Mermet, qu'on attend les bras ouverts. Le repère de Annecy, c'est tous les premiers jeudis du mois au Dercim de Mété à 19h. Qu'on se le dise et répète.
Eh ben oui, on sera le samedi 14, à Torrent-Glières, pour ce premier repère des repères de là-bas, si j'y suis. Toute la journée, il y a des conférences, des débats plus passionnants les uns que les autres. Et puis, le dimanche, sur le plateau des Glières, il y a des prises de parole de la part des résistants d'aujourd'hui. C'est une association locale formidable qui essaye de lier les résistances d'hier et les résistances d'aujourd'hui. Nous y serons le 14. Le Japon, aujourd'hui, parenthèse, on continue demain, mais on a du pain sur la planche, puisque TEPCO, l'entreprise propriétaire de la centrale de Fukushima, vient d'annoncer que le niveau des substances radioactives a fortement augmenté en mer, à une quinzaine de kilomètres au large de la centrale. Voilà, donc, lorsqu'on dit et répète, comme disait notre ami, que les médias sont partis, mais rien n'est réglé, eh bien, voilà les déclarations très inquiétantes de TEPCO. Encore que cette inquiétude est certainement infondée, puisque le président de la République, vous l'avez peut-être noté, a déclaré « On n'a pas le droit de jouer sur des peurs moyenâgeuses pour remettre en cause des choix qui font la puissance de notre pays. » C'est ce qu'il a déclaré en visitant Gravelines, la centrale de Gravelines, et en rappelant son soutien à cette source d'énergie qui est nécessaire, selon lui, et indispensable pour notre pays. Il y a un écho entre ce qui se passe, évidemment, faut-il le dire, au Japon actuellement, ça continue, et les inquiétudes qu'on peut avoir chez nous, et très souvent au cours de ces voyages au Japon, nos amis japonais, nos interlocuteurs nous ont parlé de ce qui se passe chez nous. Donc ça, on continue demain. Pourquoi demain? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est la rencontre mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique à la Java, autour de ce numéro du mois de mai. Donc on va retrouver l'équipe du Diplo en musique aussi, avec Juliette Capla et Fabrice Vieira qui vont nous accompagner. Un mot encore sur le procès DSK. La date de diffusion n'est pas encore fixée. Vous dites « Ah oui, d'accord, mais nous, on n'a pas pu y aller. C'est quand que vous diffusez ?» Dites-vous. Eh bien, on va vous le préciser bientôt, mais c'est pas encore programmé. Vous savez, l'équipe de la basse, j'y suis, c'est très compliqué. Et très simple à la fois. Ok, donc en route pour la rencontre avec le Monde Diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le repère La Bassigie de Poitiers vous invite mercredi 4 mai à 20h30 au plan B pour parler de l'Opsi 2 et on y projettera le film Les Yourtes de la Discorde. Venez nombreux, merci.
Bonjour à toute l'équipe de La Bassigie, j'y suis, bonjour à tous les AMG et en particulier à ceux du Pas-de-Calais pour leur rappeler que le repère chez Tartous et compagnie à Monchy-Breton se réunit ce jeudi à partir de 19h, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et on a un ami, Arthur, qui est ivoirien, qui viendra en discuter avec nous. Et de bien d'autres sujets, bien sûr, ça ne manque pas.
Mais je suis complètement triste, un peu déboutée de la situation de notre monde. J'ai été syndicaliste, y compris à la CGT. Justement, j'entendais ce matin sur France Inter l'information. Monsieur Bernard Pribot a écrit à ses cadres pour donner un argumentaire contre le Front National. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre Monsieur Bernard Pribot, patron d'une entreprise, mais la CGT, c'était pas des cadres, c'était des militants, c'était un syndicat. On est où? Mais quelle dérive, mon Dieu! Comment on va? Qu'allons-nous devenir? Une dérive sans... C'est pas possible. Moi, j'ai fait du syndicalisme pour qu'aujourd'hui, le responsable national soit considéré comme un patron. Non. Et puis qu'on se complaît dans ce jeu. Quel monde triste. Au revoir, à bientôt.
Bonjour à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis, et particulièrement à ceux des Côtes d'Armor. Ce mercredi 4 mai se tiendra le Café Repère de Là-bas si j'y suis de Tréguier, au Café L'Aigle Noir, à partir de 18h30. Le thème de la discussion, la laïcité autour de la loi de 1905. Donc à ce soir, à L'Aigle Noir, 18h30, Tréguier, Côtes d'Armor.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est Là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro du mois de mai. Benoît Gigou et Hervé Desjardins sont à la technique. On va commencer par saluer nos amis techniciens et à la musique, à la voix pour l'instant, Juliette Capla et Fabrice Vieira qui vont nous accompagner tout au cours de ce numéro du mois de mai du Monde Diplomatique à la Java. Alors on va commencer par de la poésie aujourd'hui, ou du moins des alexandrins d'un auteur, un jeune auteur contemporain qui s'appelle Frédéric Lordon. Le peuple est ignorant, livré aux démagogues, outrance et déraison sont ses violentes drogues, il n'est que passion brute, impulsion sans contrôle, un bloc d'emportement et de fureur un môle. Mais nous craignons surtout que des opportunistes sans vergogne excitant la fibre populiste propagent leurs idées, infestent les esprits, ils nous veulent plus que raides et oxy. Voilà, c'est les vers de Frédéric Lordon. Et ce sont des banquiers qui parlent là, qui sont inquiets, donc des critiques qu'on peut leur faire, surtout quand elles viennent du peuple. C'est qu'ils ne connaissent pas encore peut-être suffisamment le monde diplomatique. Alors on va commencer avec Serge Halimi, qui, dans ce numéro, fête un anniversaire avec quatre bougies. C'est l'anniversaire du début de la crise financière. Le système bancaire, qui pour certains est responsable de cette crise, en partie ou totalement, ben, se porte quand même plutôt bien, même mieux qu'avant. Il y a eu des petites réprimandes de ci, de là, mais assez formelles. Et il s'en sort d'autant mieux qu'il a le soutien des responsables politiques. C'est ce qui ressort de votre papier, mon cher oui, oui. Serge.
Vous avez remarqué que j'évite tous les sujets dont on parle en ce moment. L'exécution hollywoodienne de Ben Laden par un commando, le mariage, la béatification. Donc je parle
de Ben Laden.
Donc je parle de quelque chose d'infiniment moins important. C'est l'éternelle histoire du chien qui n'aboie pas. Nous venons de connaître un anniversaire, l'anniversaire de ce que le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, a qualifié de pire crise financière de l'histoire mondiale, crise de 1929 comprise. Alors c'est intéressant quand lui donne cette définition, dans la mesure où il a obtenu, je crois, sa thèse d'économie en étudiant les crises économiques, et en particulier celle de 1929. Donc il nous dit que celle qu'on a connue depuis maintenant 4 ans, était plus sérieuse que celle de 1929. Elle a démarré il y a environ 4 ans, elle s'est déchaînée en septembre 2008, et lorsqu'elle a éclaté, vous vous souvenez qu'il y a eu une floraison de discours ultra-révolutionnaires de Nicolas Sarkozy et Che Guevara à Toulon. Il y avait la une du Washington Post qui titrait quelques semaines après cette crise de septembre 2008, est-ce que le capitalisme est mort ? C'est pas une question qu'on se pose souvent sous forme éditoriale dans le Washington Post. Quelques semaines plus tard, il y avait Newsweek qui annonçait en couverture « Nous sommes tous socialistes maintenant, we are all socialists now ». Donc on avait vraiment l'impression que des tas de choses allaient
changer. N'oubliez pas Jacques Julliard dans le Nouvel Observateur, qui était devenu un furieux marxiste.
Et qui en a d'ailleurs été chassé pour entrer dans un journal le plus marxiste encore.
Encore plus révolutionnaire.
Puisqu'il s'agit de Marianne. Eh bien, tout cela, 4 ans plus tard, ça débouche sur un rapport où même le Fonds monétaire international, le FMI, admet, je cite, « Près de 4 ans après le début de la crise financière, la confiance dans la stabilité du système bancaire global doit toujours être entièrement restaurée ». On se dit tout de même tout ça pour ça, avec les sommes qu'on a consacrées à sauver les banques, avec la crise de la dette publique qu'on connaît précisément parce qu'on a consacré des sommes énormes à sauver les banques, ce système bancaire global doit toujours être restauré. Alors se pose la question quand même, face à une catastrophe de ce genre, combien de sanctions pénales ? Aucune. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ont misé sur l'effondrement des placements à risque qu'ils recommandaient au même moment à leurs clients. C'est très moral, très éthique, très professionnel. Ça vous dit à vos clients, achetez, ça va monter. Et comme vos clients vous font confiance, ils achètent. Et vous, au même moment, vous spéculez à la baisse pour espérer, évidemment, empocher la différence. Donc ces banques s'en tirent avec quoi ? Avec, au pire, des amendes, le plus souvent, comme on le sait, avec des bonus, puisque leurs affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Alors on dira, mais oui, vous découvrez la Lune, c'est toujours le cas. Les banquiers s'en tirent toujours. Eh bien non, justement, ce n'est pas toujours le cas. À la fin des années 80, à l'aune de celle qu'on vient de vivre, elle est relativement mineure, mais qui fut la crise des caisses d'épargne américaines, avec une chute d'un certain nombre de caisses d'épargne à la suite de procédés frauduleux. Résultat de tout ça, quand même, 800 banquiers se sont retrouvés derrière les barreaux. Bon, je ne dis pas que ça me fait envie, mais un petit peu. Alors, que se passe-t-il ? Ben, il se passe tout simplement que la puissance des banques a été encore accrue par les restructurations, puisqu'elles se sont concentrées, elles sont devenues encore plus grosses, et elles ont donc maintenant un pouvoir plus considérable qu'avant, au moment précis où les États, eux, sont affaiblis par le poids de la dette publique. Et donc le rapport de force entre les banques et les États interdit presque aux États de prendre des sanctions contre les banques. Et d'ailleurs, mercredi dernier, Barack Obama était déjà en campagne de réélection. Et où était-il pour mener sa campagne de réélection, pour lever des fonds ? Eh bien, il était dans une petite fête qui était organisée pour son compte par Goldman Sachs. Vous imaginez sans peine que quand il sera réélu, il se montrera particulièrement intransigeant envers
Goldman Sachs, ses amis, oui,
qui était déjà au nombre de ses principaux donateurs lors de la campagne de 2008. Et là, Goldman Sachs, donc, qui a été poursuivi, qui a même été condamné à une amende, parce qu'ils en ont payé une, de 500 millions de dollars, ça ne dissuade pas apparemment le président des États-Unis d'aller les voir pour obtenir des fonds pour financer sa campagne. Donc là, on a quand même un exemple assez significatif. Et il y en a un autre que je relève dans l'éditorial, c'est qu'il y a un an, le directeur de la BNP Paribas, Baudouin Pro, n'hésitait pas à menacer les gouvernements européens d'une panne de crédit au cas où ces gouvernements européens réglementeraient trop sérieusement les banques. C'était une période où on disait « on va réglementer les banques ». Eh bien, Baudouin Pro va à la télévision, c'est sur LCI, une chaîne du groupe Bouygues, et il déclare, je le cite, « les banques françaises, les banques européennes, JP Morgan et les grandes banques américaines, nous sommes tous d'accord sur le fait que cette réglementation des banques est totalement excessive. Si elle est adoptée, j'annonce clairement que le financement de l'économie européenne sera gravement mis en cause dès 2012, qu'on a plusieurs points de croissance et plusieurs millions d'emplois à la clé. » Vous avez donc une déclaration qui est une déclaration de chantage. Nous avons le pouvoir, nous les banques, on s'est mis d'accord pour dire on ne veut pas de votre réglementation. Et si vous nous imposez cette réglementation, il n'y aura plus de crédit, l'économie s'arrêtera et vous aurez du chômage et vous, les hommes politiques, vous devrez vous arranger avec ça au moment de la campagne électorale. Et là, il s'agit quand même du patron d'une des plus grandes banques du monde qui dit aux gouvernants « attention à ce que vous faites ou sinon pas de crédit, pas de croissance, pas d'emploi ». Et on en est là. On en est là après tous ces G20 dont on nous annonçait que ça allait être la nouvelle symphonie planétaire, qu'on allait tout régler, que maintenant qu'il y avait la Chine et le Brésil et les BRIC, etc., le grand conclave allait nous débarrasser de tous les problèmes qu'on avait connus. On en est là après cette aide gigantesque qui a été accordée aux banques et qui, parce qu'elle a été accordée aux banques, a causé la faillite de certains États et en se disant qu'il fallait pas que ça se renouvelle. Eh bien, ça va se renouveler. Rien n'a changé dans un système qui mêle des réglementations bancaires, primes pharaoniques qu'on verse à ceux qui font de l'innovation financière, et lorsque leur innovation financière se traduit par les dégâts qu'on connaît, qui se retournent vers les États et vers les contribuables en leur disant « voilà combien ça coûte, à vous de payer ». Donc on a eu beaucoup de discours critiques, mais en termes d'actes qui ont suivi, presque rien. Ainsi donc, ce qui aurait dû être ce que qualifiait justement Frédéric Lordon, dont vous citiez les vers tout à l'heure, de crise de trop, a été assez largement une crise pour rien. Et il y a une explication de cette déception qui peut nous saisir. C'est une explication qui est avancée par l'un des responsables de la régulation bancaire chinoise, donc qui connaît bien son sujet, et qui explique que les États, en fait, ne vont rien faire à l'encontre de leur système financier parce qu'il y a ce qu'il appelle un problème de capture. Un problème de capture, ça veut dire que les responsables politiques se comportent de plus en plus comme des marionnettes qui sont avant tout soucieuses de ne pas trop déranger les affaires des banquiers, sans doute parce qu'elles en ont peur, parce qu'elles ont trop concédé de pouvoir à ces banques pour pouvoir vraiment les réglementer. Et donc, 4 ans après qu'est démarrée cette crise dont on connaît les conséquences en termes de plans d'austérité, etc., dans un très grand nombre de pays, aucune vraie mesure de sanction n'a été prise contre les banques et aucune mesure de réglementation sérieuse non plus.
Bon, qui peut bien avoir des questions à poser après un constat aussi joyeux?
Il me semble qu'à une époque, dans les années 80, il y a eu des banques françaises nationalisées qui ensuite ne l'ont plus été. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être repris?
Renationaliser les banques?
Là, oui, voilà.
Oui, il y a eu des banques qui ont été nationalisées. Vous avez ce terme très pudique qui ne l'ont plus été. C'est-à-dire que ça n'a pas été une opération du Saint-Esprit. Ça a été un vote de l'Assemblée nationale pour privatiser les banques. Donc ça a été une mesure politique qui a été prise par les gouvernants dans les années 80. Il y a la possibilité, effectivement, de nationaliser les banques. Si on l'avait fait au moment où on les a aidées, si on avait, en quelque sorte, transformé cette aide qu'on leur a apportée en participation au capital... Comme leur capital et leur crédit étaient presque nuls, on les aurait achetés pour une bouchée de pain. Et tous les profits qui ont été réalisés depuis, c'est la collectivité qui les aurait réalisés au lieu que ce soit les actionnaires de la BNP Paribas. C'est un scandale à peu près comparable à celui de la privatisation des autoroutes. Une fois qu'on a fait les autoroutes en disant aux Français « vous payez pendant 30 ans, mais après c'est à vous », au moment où enfin ça va rapporter énormément... On le vend pour une bouchée de pain à une compagnie privée amie du pouvoir politique qui, évidemment, s'enrichit à cette occasion. Mais j'ajoute que dans le cas des banques, il y avait une proposition qui avait été faite par Lordon aussi, qui était qu'on ne les nationalise pas, qu'on les exproprie. On leur a donné assez d'argent et voilà, maintenant on dit c'est à nous. Vous n'existez pas sans nous, de toute façon, votre crédit est complètement ruiné. Si on ne vient pas à votre secours, et bien voilà, on fait une banque publique et qu'il y aura d'autres soucis que la spéculation, notamment la reconstitution d'un tissu industriel digne de ce nom. Ce qui, comme vous le savez, est un problème de plus en plus sérieux en France, avec toutes les conséquences en termes de chômage et de désespérance sociale qui s'ensuivent.
Juliette Capla, Fabrice Vieira, est-ce que vous pouvez traduire tout ça en musique ?
Oh, oui. Dans la nuit, les banquiers s'endorment sans se poser trop de questions. Ça donne des envies énormes d'aller leur crever les dredons. Dans la nuit, y a vos yeux qui piquent. Le marchand de sable est passé. Vous rêvez, c'est totalement illogique. Un marchand qui se fait pas payer. Dans la nuit, les sorcières plongent bien agrippées à leur balai. Leurs corps sont de grosses éponges qui, comme la réalité, dance with me silence. Les ordis calculent, dors bien sur tes deux oreillers, mon chéri, si c'est pas toi qui spécule, c'est sûrement pas toi qu'on va niquer. Dans la nuit, les banquiers s'endorment sans se poser trop de questions. Ça donne des envies énormes d'aller leur crever les dredons. Chla !
Juliette Capla, Fabrice Vieira, avec l'équipe du Diplo autour de ce numéro du mois de mai. On va se rappeler quand même qu'on a quelques sujets de fierté, nous autres Français, à éprouver, si l'on pense à notre présence militaire en Libye, par exemple. Nous sommes présents et nous avons été présents en Côte d'Ivoire. Nous sommes intervenus. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. On ne peut pas dire qu'on est une puissance déclinante de ce point de vue-là. Ce qui n'est pas tout à fait le point de vue d'Anne-Cécile Robert, qui donne un long papier dans ce diplôme sur le droit d'ingérence, dont il ressort qu'on serait peut-être en présence d'une forme d'échec de la politique voulue par les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, qui visait à régler les conflits par des moyens et des pressions plutôt pacifiques. Et là, il semblerait que ce soit plutôt la force qui prévale, Anne-Cécile.
Et coup sur coup, en quelques mois, les Nations Unies ont effectivement autorisé deux recours à la force, l'un en Libye, l'autre en Côte d'Ivoire. Donc il s'agit concrètement de guerre. Et les gens ne le savent peut-être pas, ou peut-être l'ont-ils oublié, mais normalement, depuis 1945, la guerre est interdite en droit international. C'est-à-dire que, après la Deuxième Guerre mondiale, vu les horreurs qu'on avait vécues, on était quand même allé assez loin dans le chaos et les ignominies, on s'était dit, on va bannir des relations internationales le recours à la force. Bon, c'est pas une mauvaise idée en soi. Il est vrai que les règles méritaient d'être rappelées. Et il y a seulement deux exceptions. C'est la légitime défense. Évidemment, si vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre en utilisant des moyens militaires. Ou, deuxième cas, une autorisation donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies au nom de la protection de la paix mondiale. Donc c'est les deux seuls cas. En dehors de ces cas, les États ont l'interdiction totale de faire la guerre. Alors vous me direz, ça n'a jamais vraiment marché. C'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres. Mais du moins, la règle était claire. Le principe était fixé, la guerre est bannie, et elle est bannie parce que la guerre, ça tue des gens. Et que donc, quand on veut recourir à la guerre, il faut avoir de sérieuses raisons. C'est pour ça qu'on avait limité les conditions. Or là, on nous dit qu'il faut absolument aller bombarder la Libye, parce qu'il y a des insurgés. Faut intervenir en Côte d'Ivoire et on nous dit c'est le droit humanitaire, il faut protéger les populations. Alors tout le monde est pour la protection des populations, évidemment, personne ne va dire on veut pas les protéger. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut protéger des populations, protéger certaines populations en bombardant d'autres? Qu'est-ce qui distingue un missile humanitaire d'un missile qui tue des méchants? Et on a vu encore ces jours-ci que les missiles sont indistincts. Donc, Daniel Mermet, je m'interroge.
Et vous me répondez quoi?
Et je me réponds que, est-ce qu'on n'est pas en train de défaire, finalement, ce qu'on avait fait avec difficulté en 1946, c'est-à-dire d'établir des règles pour essayer que, petit à petit, on débarrasse la société internationale d'un certain nombre de pratiques? Est-ce qu'on n'est pas en train de réinstaller la force par rapport au droit? Est-ce qu'on n'est pas en train de réinstaller une sorte de chaos qui permettrait finalement aux puissants d'imposer leurs lois? Parce que vous remarquez que ceux qui ont la possibilité de faire les interventions humanitaires, c'est les puissants. C'est les pays occidentaux. On n'imagine pas un petit pays africain aller mener une intervention humanitaire contre les États-Unis qui violent les droits de l'homme à Guantanamo, par exemple. C'est toujours les mêmes. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une déviation du système international qui légitimerait finalement le recours à la guerre? Parce que finalement, le Conseil de sécurité, c'est quoi? C'est un directoire. C'est les grandes puissances qui décident. La Charte des Nations Unies, elle n'a pas changé. Elle interdit toujours la guerre. Elle interdit l'ingérence. Donc tout ça est assez inquiétant parce que on sème le doute, on sème le chaos dans la société internationale qui est déjà quand même fragile. Et si les puissants s'affranchissent des règles, on ne pourra pas après obliger les moins puissants à les respecter. Donc c'est une phase extrêmement dangereuse, d'autant plus qu'on s'aperçoit que les interventions militaires à but humanitaire, c'est un peu comme les travaux de plomberie qu'on fait chez soi. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Et là, nos amis qui bombardent la Libye, ils en sont maintenant à vouloir de tuer Kadhafi lui-même. Or ça, c'est interdit par le droit international. On n'a pas le droit de renverser un gouvernement. Je sais que c'est pas forcément très clair pour tout le monde, mais le renversement d'un gouvernement par des moyens militaires est interdit par le droit international. Normalement, c'est les peuples qui choisissent leurs dirigeants. Là, le fait que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni mettent quasiment la tête à prix de Muammar Kadhafi, qui est un petit peu fréquentable, je le concède, est parfaitement scandaleux. Normalement, on n'a pas le droit. Sinon, c'est un peu le chaos. Il y a peut-être des gens qui voudraient même mettre la tête à prix de Sarkozy, qui sait.
Mais quand même, il y a ce moment où on dit, ces pauvres gens qui sont en train de se faire massacrer, qui sont en train de souffrir, on a des images de pauvres femmes, de pauvres enfants qui sont comme ça à gare sur les routes, et on se dit, nous, on est tellement gavés devant nos télés, tellement puissants, etc. Faisons quelque chose, il faut faire quelque chose. Et là, l'idée d'ingérence nous vient tout naturellement.
Mais là, il faut se poser deux questions quand on voit ce genre d'images. C'est d'abord, pourquoi on voit ces images? Parce que des femmes qui fuient des bombardements, un bébé qui pleure dans les bras, il y en a un peu partout sur la planète. Il y a un choix déjà qui est fait de mettre l'accent sur certaines personnes. Donc il y a une intention politique. Donc on peut se dire que dans le choix de la Libye ou de la Côte d'Ivoire, il y a des intentions politiques, il y a des intérêts. Et deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens que la guerre? Dans l'histoire de Kadhafi, qui je le répète est un type peu fréquentable, vaut mieux le répéter puisque les petites phrases sorties du contexte pourraient transformer mes propos. Donc Kadhafi qui est un type peu fréquentable, j'ai pas vu beaucoup de missions de médiation. Comme il y avait eu, par exemple, avant l'Irak, on avait envoyé des Kofi Annan, on avait envoyé des inspecteurs. Là, Kadhafi, on lui a pratiquement tapé dessus tout de suite. Donc évidemment, à chaque fois, il y a des problèmes humanitaires. La question, c'est est-ce que, un, il n'y a pas des moyens pacifiques de régler le problème? Deux, est-ce qu'en intervenant militairement, on ne va pas aggraver la situation? Le bilan de toutes ces interventions militaires humanitaires qu'on fait depuis pratiquement 20 ans, le Kosovo, l'Irak, etc., n'est pas très bon, si vous regardez. À chaque fois, on a plutôt aggravé la situation qu'on ne l'a arrangée. Ou alors, on s'est retrouvé à mettre des Hamid Karzai à la tête de l'Afghanistan. Tout ça n'est pas très sérieux. Si Kadhafi s'en va, tant mieux, mais qu'est-ce qui va se passer après? On va laisser les tribus se taper sur la figure? Il ne faut jamais vouloir faire le bonheur des gens à leur place. Et comme disait Robespierre, honteusement méconnu, personne n'aime les missionnaires armés.
Bon.
Je voudrais juste ajouter
Serge Halimi.
Qu'en plus, il y a plusieurs types d'interventions militaires qu'on peut envisager face à une tyrannie. Là, il ne s'agit pas d'une force arabe qui est intervenue en Libye. Il ne s'agit pas d'une force onusienne. Il s'agit de soldats de l'OTAN et qui n'intervient pas avec un mandat de l'ONU précis puisqu'elle fait maintenant ce qu'elle veut. Il est évident que cibler la famille du colonel Kadhafi ou le colonel Kadhafi lui-même, ça ne fait pas partie de la résolution de l'ONU. Donc là, il y a une force militaire, une alliance militaire occidentale qui intervient en terre arabe et qui mène la guerre à sa guise. Ce qui est un problème qui dépasse la simple difficulté de savoir s'il faut intervenir ou ne pas intervenir.
Droit d'ingérence, droit d'ingérer, droit de régence doit diriger en droit sa gestion ultra subjective, devoir de ne pas s'agiter sans rien tenter. Droit d'ingérence, droit d'ingérer, droit de régence doit diriger en droit sa gestion ultra subjective, devoir de ne pas s'agiter sans rien tenter. Dictature à digérer. Rendez-vous, vous êtes bernés. Vendez-vous, bandez, débandez, soyez allés, soyez aimés, soyez heureux, soyez zéro, soyez oro, soyez sauvés, vernis, cirés, lavés, soyez chirurgicalement frappés, hométhiquement. Droit d'ingérence, droit d'ingérer, droit de régence, droit d'ériger en droit sa gestion, droit subjectif, devoir de ne pas se jeter sans rien tenter. Rendez-vous, vous êtes bernés.
Rendez-vous. Merci. Juliette Capla, Fabrice Vieira, avec nous autour de ce numéro du Diplo. On aborde un autre sujet avec Vladimir Cagnolari. Vous le connaissez si vous écoutez France Inter. Il est un des deux animateurs de l'Afrique enchantée. Par ailleurs, Vladimir a été longtemps journaliste à RFI. Et c'est ça qui nous intéresse là en l'occurrence. C'est le rôle des médias, pas seulement des RFI, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Eh bien, selon Vladimir, pour ce qui concerne ce conflit entre Ouattara et Gbagbo, les médias ont joué un rôle très important, les médias locaux, bien évidemment, mais aussi les médias français, et puis aussi les agences de communication, parce que les deux leaders africains se sont affrontés à coups de médias et d'agences de communication françaises.
Évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, on a beau toujours dénoncer les rapports intimes, incestueux, france-africains qui existent toujours entre la France et ce pays. Et ben, on a beau les dénoncer toujours, ils restent. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, comme en France, quel que soit le pouvoir en place. Et ce, depuis l'indépendance du pays. Ce qui fait que quand on cherche des agences de communication, on les cherche évidemment en France. Pourquoi ? Parce que, alors si vous voulez, on va commencer par la partie intérieure. Je vous expliquerai
d'accord.
Après pourquoi.
Commençons par l'intérieur.
Que, d'ailleurs, on a un peu tendance, et c'est vrai, moi je m'en rends compte avec le conflit ivoirien, c'est-à-dire que finalement, on lit ici beaucoup de conflits dans le monde, et en particulier celui-ci que je connais un petit peu mieux, donc je m'en rends davantage compte, le conflit avec des grilles de lecture d'abord idéologiques, ce qui fait qu'on finit par défendre à travers une situation comme celle de la Côte d'Ivoire en ce moment, des intérêts qui sont les nôtres ici en France, ou des préoccupations qui sont les nôtres, bien plus que les préoccupations des Ivoiriens eux-mêmes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va commencer par les médias ivoiriens, parce que dans l'élection ivoirienne, où en fait finalement tout s'est joué en 6 jours, du 28 novembre, date du second tour, au 4 décembre, date où Laurent Gbagbo apparaît à la télévision, prétend serment pour un nouveau mandat, tout s'est joué à ce moment-là. Et à ce moment-là, la télévision nationale, la télévision d'État, la RTI, joue un rôle prépondérant. Alors, évidemment, tout ça a aussi une histoire. La RTI a été pendant 33 ans, pendant tout le règne d'Houphouët-Boigny, le média unique national qui partageait l'information avec le quotidien d'État, Fraternité Matin, lui aussi, tout seul en lice, pour chanter les louanges et les actions éclairées du guide de la nation. D'ailleurs, chaque journal démarrait par la pensée du jour. Soro Solo fait très bien l'imitation d'Houphouët-Boigny avec la pensée du jour, mais du coup, il est pas là, donc je pourrais pas vous la faire. Toujours est-il que, évidemment, avec le vent de l'Est, encore une fois, ça joue quand le mur est tombé, les régimes africains autocratiques ont dû lâcher du lest. Et à ce moment-là, parmi les mesures d'ouverture au pluralisme politique, l'ouverture au pluralisme médiatique jouait aussi son rôle. On a donc ouvert la presse à qui voulait, c'est d'ailleurs comme ça que ça s'est fait, à part quand même la télévision. Les ondes télévisées sont restées au monopole de l'État. Et ça devient très intéressant à ce moment-là de voir comment, dès le lendemain d'élection, se met en place toute une machine, à travers la télévision ivoirienne, pour légitimer ce que moi j'appelle le coup de force télévisé, puisque la télévision joue ce rôle-là, de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que dès le lendemain, bon, on a des reportages réguliers sur les fraudes que dénoncent Laurent Gbagbo et son parti qui ont lieu dans le Nord. Ouattara n'apparaît plus du tout à la télévision. D'ailleurs, il n'apparaîtra plus à la télévision jusqu'à ce qu'il fonde plus tard sa propre chaîne. On va y venir. Donc, le lendemain de l'élection, on commence à dénoncer les fraudes dans le Nord et apparaissent des experts de commission qu'on n'avait jamais vraiment vus jusque-là, qui montre que vraiment les fraudes dans le Nord entachent la sincérité du scrutin, bref, accrédite cette thèse-là. Et puis, dès le lendemain encore, de nouveaux personnages apparaissent, ce sont des juristes, pas n'importe lesquels, des avocats. Bon, les avocats n'ont pas pour vocation première de dire le droit, ils défendent en général un client. Et eux, ce qu'ils vont commencer à faire passer à la télévision, et quand je dis ça, ça veut dire qu'on peut le voir 10, 15 fois par jour, les mêmes interventions répétées. L'idée que la commission électorale indépendante, qui est la première à proclamer les résultats provisoires, si elle ne proclame pas ces fameux résultats dans un délai de 3 jours, elle sera considérée comme nulle et non avenue et ses résultats seront hors délai. Qui est une interprétation assez particulière d'un article du Code électoral. Je vous passe les détails. Bref. Donc, à la télévision, on commence à faire monter cette scène-là. Et le mardi matin, alors, surprise générale, la RTI, donc la chaîne nationale qui était installée au siège de la commission électorale indépendante, enlève ses installations du siège de la commission électorale indépendante, où elle était censée attendre la proclamation, même partielle, des premiers résultats arrivant les uns après les autres. Et on assiste à cette scène que vous avez sans doute tous vue, un peu plus tard, donc la RTI, la chaîne d'État, ne voit pas ça. Où le porte-parole de la commission électorale indépendante essaye de venir diffuser ses premiers résultats, partiels, non définitifs donc, et il y a un des autres membres de la commission qui vient et qui lui arrache des mains en disant que tout ça ne fait pas l'objet d'un consensus dans la commission électorale, etc. Les Ivoiriens, pour l'instant, n'ont pas vu cette image dont je viens de vous parler et qu'on a tous vu, qui forcément entachait le crédit de Laurent Gbagbo. Mercredi soir, le délai que tous les juristes ont dit qu'il ne fallait pas dépasser arrive, et effectivement, la commission électorale n'a pas proclamé ses résultats. Et le jeudi, le président de la commission électorale indépendante va proclamer les résultats, mais alors pas du tout à la commission électorale indépendante, au siège, il va les proclamer à l'hôtel du Golfe, le quartier général de Ouattara. Et là, c'est quand même fort de café, là, quand même, comme affaire. Et ces images-là ne sont pas vues à la RTI, évidemment. Par contre, elles sont relayées par les médias internationaux. Et à partir de ce moment-là, on coupe tous les médias internationaux. Il ne reste plus que la RTI. Le lendemain, 24 heures après, la Cour constitutionnelle proclame Laurent Gbagbo vainqueur, annulant 560 000 voix dans les départements du Nord, c'est-à-dire en allant au-delà même des requêtes en contestation électorale qu'avait demandé Gbagbo, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui est censée valider les résultats définitifs. Donc elle a seule le dernier mot. En annulant 560 000 voix, elle renverse complètement le scrutin sans tenir compte d'un article du fameux code électoral qui dit que si des irrégularités majeures entachent le déroulement du scrutin, on doit refaire intégralement l'élection. On n'a pas le droit d'annuler 13 départements d'un coup, parce que c'est ça qui s'est passé précisément, et du coup inverser le résultat de l'élection. Mais du coup, pour les Ivoiriens qui sont à l'intérieur, les médias internationaux sont coupés, ils voient le président du Conseil constitutionnel qui, lui, annonce ses résultats, et 24 heures plus tard, Laurent Gbagbo, qui se proclame vainqueur à la télévision, qui prête serment même à la télévision, grande cérémonie, etc. Ça veut dire que tout à coup, à ce moment-là, la télévision, elle joue un rôle majeur, puisque non seulement on coupe les autres accès à l'information, alors c'est vrai qu'il y a Internet, mais enfin, pour le coup, même s'il y a beaucoup de gens connectés en Côte d'Ivoire, c'est vraiment loin d'être tout le monde qui l'a à la maison, Internet. Les gens peuvent l'avoir au boulot, dans les cybercafés, mais la tension grandissait à Abidjan. Donc, les gens ne voient que cette image-là. Le fait de voir Gbagbo, une fois président, ça entérine, c'est devenu la réalité. De la même façon que, bien plus tard, le 11 avril, quand, avec l'intervention des forces françaises et les troupes de l'ONUCI, Gbagbo est capturé, arrêté, c'est cette image-là qu'on va voir. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué. Oui, mais comment, un peu de dignité, etc. Mais en fait, de la même façon que Laurent Gbagbo lui-même s'était proclamé président à la télévision et pour prouver au reste du pays que c'était bien lui qui était là, on a voulu utiliser ces images pour prouver le contraire. Or, ces images, maintenant, elles sont plus sur la radio-télévision ivoirienne, elles sont sur TCI, Télévision Côte d'Ivoire, qu'a fondé Alassane Ouattara pendant ces mois de conflit pour pouvoir contrer la puissance des images que maîtrisait Laurent Gbagbo. Et les premières manifestations dans ce blocage post-électoral seront pour essayer de reprendre le contrôle de la radio-télévision ivoirienne. Et d'ailleurs, parmi les frappes de l'ONUCI et des forces françaises, il y aura les installations de la télévision ivoirienne. Ça, c'était vraiment la guerre interne à travers les médias. Comme si ce qu'on voyait à la télévision, finalement, devenait la réalité avant même la réalité. D'où l'usage de ces deux images, Laurent Gbagbo s'autoproclamant vainqueur, le 4 décembre, et le 11 avril, on montre ces images de chefs déchus qui ont choqué beaucoup de monde, y compris en Côte d'Ivoire. Mais l'idée, là, c'était vraiment de montrer, c'était cette image-là qui montrait que la guerre était finie, même si c'était plus compliqué que ça, alors, puisque ça continue aussi.
Vladimir, en bref, le rôle maintenant des médias extérieurs, français par exemple.
Bah, Daniel, tu parlais tout à l'heure de ces agences de communication à l'extérieur. Les deux candidats avaient pendant leur campagne sollicité des communicants. Alors Stéphane Fuchs et Euro RSCG, hein, qui dépend du groupe Bolloré pour Laurent Gbagbo, et PBcom, qui est l'agence de Patricia Balm, qui est habituée des dirigeants africains qu'elle représente beaucoup ici, qui sont en fait l'équivalent de lobby, que ce soit auprès des rédactions, mais aussi du carnet d'adresses de ces communicants-là. Donc, ils vont jouer leur rôle dans l'idée notamment...
Des rédactions françaises ou...
Ah bah évidemment, c'est-à-dire qu'on envoie des communiqués, on propose des interviews, c'est-à-dire que on fait une démarche pour inciter son héros ou son dirigeant à avoir la parole. Laurent Gbagbo a besoin d'inverser la tendance auprès des opinions, et en particulier de l'opinion française, puisqu'on sait justement l'importance que peut avoir la Côte d'Ivoire pour la France. Donc c'est en France que va se jouer d'abord cette bataille-là. Et en France, il va avoir recours bien sûr à ses amis socialistes, parce que il faut pas oublier que son parti faisait partie de l'Internationale socialiste, et en particulier à Guy Laberty, qu'il avait hébergé pendant son exil en France et qu'il a toujours défendu, quand bien même le PS a fini par demander à Gbagbo de quitter le pouvoir pendant la crise électorale. Donc ça, c'est les amitiés politiques, les vieilles fidélités. Il y a aussi, on parlait de Euro RSCG qui le représentait. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo, qui a concédé le port autonome d'Abidjan au groupe Bolloré, va avoir un traitement plutôt clément pendant ces semaines où, il faut le dire, les médias étrangers suivent l'ONU et tirent à boulets rouges sur Gbagbo. Il va avoir un traitement un peu plus clément dans les journaux détenus par le groupe Bolloré. Mais surtout, ce qui va importer pour Laurent Gbagbo, c'est dans cette situation... Puisque je vous ai parlé des 6 jours où les choses se sont déroulées, mais en réalité, très vite, on va passer, pour les médias en général ici, à « il y a 2 présidents, situation inédite, qu'est-ce qu'on fait ?» On n'est plus sur qui a gagné les élections, puisqu'on a l'impression que de toute façon, on ne peut pas les départager, qui va pouvoir dire le vrai du faux, etc. Or, le travail que vont faire des communicants pour Laurent Gbagbo, c'est justement d'essayer de renvoyer dos à dos les 2 présidents, renforçant ainsi l'impression de parti pris, forcément, mécaniquement, de l'ONU et de tous ceux qui défendent, en tout cas, la victoire d'Alassane Ouattara, on va avoir l'impression qu'ils sont tous de parti pris. Et pour ça, il y a des soutiens qui étaient plutôt inattendus, notamment du côté de l'extrême droite. Moi-même, j'étais assez surpris, puisque vous rappelez que Laurent Gbagbo, justement, a eu un parcours de militant socialiste, même s'il se dit socialiste non pratiquant. Toujours est-il que... On va avoir par exemple des gens comme Bernard Houdin, qui était un ancien du GUD, du groupe Union Défense, qui va, moi je l'ai vu à la télévision, alors que les manifestants pro-Ouattara essayaient d'investir l'ambassade de Paris, qui parle comme conseiller officiel de Laurent Gbagbo, et qui est dans le bureau de l'ambassadeur, et qui parle pour Laurent Gbagbo, un peu comme un ambassadeur bis. On voit aussi beaucoup intervenir Marcel Ceccaldi, conseiller de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen tient aussi. Alors ça, c'était encore moins attendu, c'est-à-dire que le 17 décembre, si ma mémoire est bonne, elle attaque l'interventionnisme de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dire qu'il a eu la mauvaise idée, pas très finaude, de poser un ultimatum d'une semaine à Laurent Gbagbo. Autant vous dire que ça n'a pas marché du tout et que ça a même plutôt produit l'effet inverse. Du coup, en même temps, en dénonçant cet interventionnisme, on a vu ces divers réseaux d'extrême droite qui s'agitaient. Elle ne fait, elle aussi, que soutenir... Ce que cherche Laurent Gbagbo, à savoir, c'est la France qui me prive de ma victoire. Il y a un parti pris, et c'est la France qui me prive de ma victoire. Et donc, tout ce monde-là tient finalement le même discours. sans oublier, bien sûr, Maître Vergès et Dumas, et leur équipée ivoirienne, avec des propos, encore une fois, d'une violence rare, parce qu'on connaît l'engagement anticolonial, par exemple, de Maître Vergès, Maître Dumas un petit peu moins, mais enfin, c'est une autre affaire, mais la violence de leurs propos ouvre des fenêtres médiatiques supplémentaires pour Laurent Gbagbo et continue à faire douter. Alors, ils promettent un livre blanc qui va devenir un livre noir, hein, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est sorti d'ailleurs il y a une dizaine de jours. Et alors, je m'en suis quand même procuré une copie. Je vous parlais tout à l'heure de la RTI, du rôle qu'elle avait eu. Eh bien, en fait, l'essentiel de tous les arguments, voire de toutes les photos qui sont dans ce livre, ne sont que des captures d'écran, voire des reprises des arguments développés à l'antenne de la RTI. D'ailleurs, je doute même que Maître Vergès et Dumas n'y aient ajouté une seule ligne, mis à part leur signature. Ce qui irait aussi bien dans ce sens que, bien plus que défenseurs, même si aujourd'hui ils ont posé une plainte contre X pour des massacres dans l'Ouest contre Ouattara, ce qui irait dans ce sens qu'ils ont été embauchés pour faire du bruit et défendre les arguments de Laurent Gbagbo dans les médias bien plus que dans une cour. Maintenant, il y a beaucoup de gens, et ça c'est quand même important, c'est que ce travail de communication, le problème c'est que la France, elle a un très lourd passif en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc, toute cette affaire a remué beaucoup de choses parce qu'elle met sans dessus dessous les conceptions habituelles. Par exemple, sur la France-Afrique, oui, il est indéniable que la France continue à vivre là-dedans. Et en même temps, la situation ivoirienne n'est pas que ça et n'est surtout pas que ça. Parce que sinon, c'est oublier aussi les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont voté en majorité. Ce font partie des rares élections qui ont été certifiées par l'ONU à la demande des Ivoiriens. Ce n'est pas rien. Et l'ONU, finalement, y compris en intervenant militairement, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est tout à fait différent de la Libye, a fait appliquer ce qu'elle avait dit depuis le début. Sa condamnation depuis le début et après avoir cherché 1000 médiations. En ce sens-là, pour moi, le cas ivoirien et celui de la Libye est très différent. Après, il se trouve que c'est l'armée française qui a fait le boulot. Ça, c'est indéniable. Et là, je dirais, c'est malheureux parce que il aurait été mieux pour la France et ce passif france-africain que ce soit une armée népalaise, indienne, sud-africaine, si c'est peut-être possible.
Merci, Vladimir Cagnolari. On va continuer la discussion au bar. Je remercie tout le monde. Je remercie d'abord nos amis de la Java, Christine, Mani, Mathilde et Mansour. Je remercie les techniciens de Radio France, Benoît Gégou, Hervé Dejardin, Serge Alimi, Anne-Cécile Robert, Mona Cholet, Vladimir Cagnolari du Monde Diplomatique. Nous vous remercions et nous allons finir en musique avec Juliette Capla et Fabrice Vieira. Merci à tous. À très bientôt.
J'ai pris une bonne révolution. Demain j'arrête. Demain j'arrête d'y croire. Une bonne révolution. J'ai pris une bonne révolution. Demain j'arrête. Demain j'arrête d'y croire. Une bonne révolution. J'arrête de croire au lendemain qui sente, parce que ça, c'est du vent. Sauf peut-être ceux qui sentent le jasmin. Mais ça fait peur car les lendemains qui sentent, si on y croit et qu'on est déçu, c'est l'odeur. Oh, c'est l'odeur intégrale. J'ai pris une bonne révolution. Demain j'arrête. Demain j'arrête d'y croire. Une bonne révolution. Allez, j'arrête. C'est ma révolution. J'arrête aussi le train-train des transpirants en commun où personne n'écoute personne. Allez, demain j'arrête. Tant pis pour ceux que ça démange. Tant pis pour ceux que ça démange. Qu'on soit prêt à tout pour prouver sa joie. J'arrête. 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 J'arrête.
Voilà, merci à tous, merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique. Et merci à Mona Chollet qu'on n'a pas entendu tellement Vladimir a été long sur la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça valait le coup que vous l'entendiez dans tous ces développements très compétents, même s'il s'agit de s'adresser là en l'occurrence à une nombre limité d'auditeurs, mais je pense que ça valait le coup. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Demain, donc, on retourne au Japon, on continue au Japon, on va à Fukushima. Et alors, on a un auditeur qui nous a dit, vous savez, si vous êtes au Japon, il pensait qu'on était au Japon, tâchez de rencontrer Masanobu Fukuoka. C'est un type intéressant qui a beaucoup parlé et réfléchi sur l'agriculture et sur le non-faire. Alors je voudrais dire à cet auditeur qu'effectivement, Masanobu Fukuoka est un personnage considérable, mais il est mort déjà depuis 3 ans. Néanmoins, son message est particulièrement passionnant. L'occasion d'en parler. Koy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission. Ici, c'est Jean-Philippe Jeanne et Kamal Salifou qui étaient à la technique. Nous sommes assistés toujours d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attends vos messages sur le répondeur de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37. Vous l'entendez. Il est 16h sur France Inter. À demain, 15h, suite du voyage au Japon. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut!
De nouvelles révélations du site Mediapart dans l'affaire qui secoue le football français. La retranscription des propos tenus lors de la réunion controversée aurait été remise dès le mois de novembre à un haut responsable de la Fédération française de football, André Prévostot, l'homme de confiance du président du Chaussois. Mohamed Belkacemi, chargé à la Fédération du football dans les quartiers, a reconnu avoir enregistré les conversations auxquelles il a assisté. Et il aurait donc alerté ses supérieurs, mais il nie avoir communiqué les documents à la presse, toujours selon le site internet. Au cours de cette réunion auquel assistait le sélectionneur Laurent Blanc et le directeur technique national François Blacard, il a été évoqué l'idée d'instaurer des quotas de sélection de jeunes joueurs binationaux d'origine africaine ou maghrébine. François Blacard a été suspendu en attendant les résultats des enquêtes en cours. Robe noire et drapeau rouge à la main, plusieurs centaines d'avocats défilent en ce moment à Paris. Ils réclament une augmentation de l'enveloppe prévue pour les indemniser quand ils assistent à un gardé à vue. La maison ne fait plus crédit, pas de liberté sans moyens, peut-on lire sur certaines pancartes. Le cortège a quitté le palais de justice et se dirige actuellement vers l'Opéra, non loin de la chancellerie. Bruxelles cède aux sirènes de Paris. La Commission européenne propose de durcir dans certains cas la politique de flux migratoire au sein de l'espace Schengen. Les contrôles aux frontières pourront être rétablis provisoirement, en tout cas par un État en cas de défaillance de l'un de ses voisins. Et ces contrôles pourront être renforcés par un État s'il est soumis à une forte pression migratoire. La France, qui réclamait ces mesures, se dit satisfaite. 3 jours après la mort d'Oussama Ben Laden, des zones d'ombre subsistent toujours sur la façon dont l'ennemi public numéro 1 de l'Occident a été tué. La Maison-Blanche a affirmé finalement qu'il n'était pas armé, mais il a bien résisté. Quand le commando est arrivé dans la chambre du 3e étage où il l'a trouvé, Ben Laden a eu des gestes menaçants qui ont clairement représenté une menace pour nos hommes. C'est pour cette raison qu'ils ont tiré. Déclaration du directeur de la CIA, Leon Panetta. Leon Panetta qui annonce par ailleurs que les photos du cadavre de Ben Laden seront bien montrées au monde, sans préciser quand. 3 jours après la mort d'Oussama Ben Laden, Moscou annonce avoir tué de son côté en Tchétchénie l'émissaire de la branche Al-Qaïda dans le Caucase du Nord, un homme qui se faisait appeler Abdullah Kurd, détenteur d'un passeport turc. Le Parlement français, une nouvelle fois endeuillé, après la mort hier du député socialiste du Nord, Patrick Roy. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a annoncé tout à l'heure la mort de Françoise-Olivier Coupeau, députée socialiste du Morbihan. Elle a succombé, elle aussi, à un cancer. Elle avait 51 ans. La sculpture d'un buste en bois signé Paul Gauguin s'est vendue l'équivalent de 7,5 millions d'euros en enchères hier à New York. Il représente une jeune Tahitienne, une œuvre à l'histoire assez touchante. Elle avait été offerte en effet à la fille d'un ami de l'artiste âgé de 10 ans. Il lui avait promis de lui ramener un cadeau de Polynésie. C'était en 1894. Sa famille l'avait confié ensuite à Sotheby's, qu'il a donc vendu hier à un Américain anonyme.
Tous les jours, oui. À partir de 11h...
Si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Pierre Moscovici et Enki Bilal, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je suis pas du tout d'accord.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. La différence.
Et à 16h, bientôt 4 minutes, c'est Frédéric Lodéon que l'on retrouve avec toujours autant de plaisir sur France Inter. Bonjour Frédéric.
C'est très gentil, merci Angélique.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Il y en a un qui aime vraiment Chopin, il s'appelle Yukio Yokoyama, il est pianiste et il essaye de battre un record, on va peut-être avoir des nouvelles très prochainement, parce que il veut être dans le Guinness des records justement, mais il a déjà été tout à fait magnifique, il a enchaîné plein d'œuvres récemment, c'était en mai dernier, le mois de mai précédent, et il avait interprété 166 morceaux de Frédéric Chopin pendant plus de 16 heures à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Et là, il récidive, il veut enchaîner 212 œuvres pour piano, et ça a commencé hier à 8h du matin, heure du Japon, et il devait terminer à 2h le lendemain, le mercredi, donc on n'a pas encore tout à fait les nouvelles, mais enfin, on sait qu'il dit que, et ça on veut bien le croire, que Chopin est son auteur préféré, et qu'il espère le mieux comprendre comme ça, et le faire connaître à plus de gens, et tout ça est retransmis par la radio en plus, alors ça va changer peut-être des nouvelles du tremblement de terre, de la centrale, etc., etc. Mais voici un autre grand artiste japonais qui a gagné un concours, c'est le concours Van Cliburn, et c'était en 2009, il s'appelle Nobuyuki Tsuji, et il interprète maintenant la première étude de Frédéric Chopin. Thank you. Première étude de Frédéric Chopin par Nobuyuki Tsuji, médaille d'or au concours Van Cliburn à Cleveland. Et voici maintenant un maître, alors là on quitte la jeunesse, une vingtaine d'années pour notre pianiste, et on arrive à un grand sage, Sir Colin Davis, qui va être à Paris au Théâtre des Champs-Élysées dès demain, puis le 7 aussi. Alors lui, il a 83 ans, et toujours un grand sourire, toujours une prestance magnifique. J'ai eu envie de lui donner un petit coup de chapeau, parce que vraiment, ce grand chef d'orchestre a beaucoup fait pour la musique, et spécialement et curieusement pour la musique française, avec Berlioz particulièrement. Mais d'abord, voici l'Allegro Vivace de la première symphonie de Franz Schubert. Alors là, il y a vraiment un passage qui est très touchant. Schubert était adolescent, et voilà, Colin Davis arrive maintenant à cet âge de grande expérience. Et ben, il reste toujours très très juvénile, cher Sir Colin Davis.